La revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
Il est 1h36 du matin à Washington et les journaux américains commencent à y voir à peu près clair dans les résultats du Super Tuesday.
Et oui, c'était hier, enfin cette nuit chez nous, le grand jour des primaires démocrates. 16 États et territoires qui votaient pour désigner le futur adversaire de Donald Trump à la présidentielle de novembre. Eh bien, suspense, rien n'est joué, nous dit le Washington Post qui essaye de tirer les premiers enseignements. Le principal, bien sûr, c'est le retour en force confirmé de Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama, qui clame sa victoire dans 8 États contre 3 pour le moment pour Bernie Sanders. Biden, le centriste, reprend la place de favori à Sanders, le socialiste, sur les résultats de cette nuit à proprement parler. Attention tout de même à ce que disent les chiffres. Biden remporte plus d'États que son rival, mais ce dernier fait tout de même le plein de délégués pour la convention démocrate d'investiture, puisqu'il devrait, sans trop de surprise, l'emporter en Californie, dont on attend toujours les résultats, mais qui est l'État qui pèse le plus lourd dans ses primaires. Si l'on regarde la manière dont s'est passé le vote de ce mardi, impossible, nous dit le site d'infopolitique The Hill, de passer à côté d'une chose. La participation dans la plupart des États qui votaient aujourd'hui a connu un bond inattendu. Elle a presque doublé en Virginie, par exemple, mais ce regain d'intérêt pour le vote a clairement profité à Joe Biden. Ça tient en grande partie au vote des Afro-Américains qui se sont déplacés en grand nombre pour voter et qui ont plébiscité Joe Biden, comme on l'avait déjà vu en Caroline du Sud samedi dernier. Le pari afro de Biden a donc payé selon Politico, et en parallèle le positionnement stratégique de Bernie Sanders sur les latino-américains et sur les jeunes électeurs, lui n'a pas tenu ses promesses. Les foules de jeunes américains qui semblent porter la campagne de Sanders depuis un an ne se retrouvent pas dans les urnes, constate Aaron Blake du Washington Post. Et quant au nombre des latinos, il semble avoir été ce vote des latinos massif en Californie. On a même vu des files d'attente invraisemblables dans cet état toute la journée d'hier, mais la Californie semblait de toute façon acquise à Sanders. Ça ne change pas grand-chose au résultat final. Joe Biden se replace donc en favori ce matin dans la course à la Maison-Blanche, en tout cas côté démocrate. Et son succès, c'est celui des vieilles recettes politiques, l'alignement au centre, le consensus idéologique, la peur du changement. Bref, le vote des seniors dans toute sa splendeur, une valeur sûre. Quant à Bernie Sanders, son salut dans les prochaines primaires tient en particulier à une chose, le retrait de la course de sa rivale à gauche, Elizabeth Warren. Il est temps de tirer votre révérence, sénatrice Warren, l'implore ce matin le magazine Pro Sanders, The Jacobin.
Bon, on va partir à présent en Argentine, sur la piste de l'argent des nazis.
C'est toute une page d'histoire qui remonte à la surface depuis lundi dans la presse argentine, avec une liste retrouvée un peu par hasard dans les archives oubliées du parti nazi à Buenos Aires. Le quotidien La Nation en produit un fac-similé de cette liste. Elle contient pas moins de 12 000 noms de personnes et d'organisations argentines des années 30 et du début des années 40 qui affichaient alors leur soutien au Troisième Reich. Soutien idéologique d'abord, il est de notoriété commune que les thèses nazis avaient pignon sur rue en Argentine dès après 1933. Il y avait des syndicats pro-nazis, des filiales du NSDAP enregistrées comme telles qui rassemblaient des dizaines de milliers de sympathisants, le tout soutenu, promu même par au moins deux présidents argentins de l'époque. Mais soutien financier aussi, ce que le document découvert à Buenos Aires apprend aux historiens d'après la revue Contexto, c'est que l'Argentine a servi avant même la Deuxième Guerre mondiale de relais bancaire au régime nazi en Allemagne. Au-delà des milliers de noms contenus sur la fameuse liste, on y trouve des transferts d'argent qui y sont associés, des comptes en banque, ouverts notamment dans ce qui allait devenir plus tard le Crédit Suisse, et qui pourraient avoir alimenté les caisses du parti d'Hitler via donc l'Argentine et la Suisse. Selon le centre Simon Wiesenthal cité par El País, ces comptes, dont la plupart sont restés en sommeil pendant les 8 dernières décennies, pourraient encore aujourd'hui cacher des sommes d'argent considérables spoliées aux Juifs d'Allemagne. On parle là, selon l'estimation qu'en fait La Nation, de transferts d'argent à hauteur de 35 000 millions d'euros. Vous avez bien entendu, 35 milliards d'euros.
Et voilà qui donne une nouvelle dimension à ce que l'on savait déjà sur le rôle de l'Argentine comme refuge d'anciens nazis après la Seconde Guerre mondiale.
Oui, on sait que des dizaines de hauts responsables du régime nazi comme le docteur Joseph Mengele ou le SS Adolf Eichmann sont allés se terrer en Argentine ou encore au Brésil après 1944 avec la complicité des autorités locales. Les autorités argentines d'alors ont tout fait pour leur assurer la plus grande discrétion. D'ailleurs, la liste dont on vient de parler a survécu par miracle à tous les efforts faits après 1948 pour faire disparaître les traces de ce collaborationnisme très très poussé. Je ne sais pas vous, mais ça me rappelle un extrait de film.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce qu'il serait par hasard possible, j'ignore si ça existe, de consulter un fichier sur lequel il y aurait les noms et adresses d'anciens nazis? Il y a forcément une amicale d'anciens nazis ou un club, une association?
OSS 117, Rio ne répond plus. Elle existe donc toujours, cette liste. Et pour revenir à l'après-Deuxième Guerre mondiale, d'autres archives qui pourraient se révéler décisives, ce sont celles qui viennent d'être ouvertes du pontificat de Pie XII au Vatican. C'est un article de la radio-télé allemande, la Deutsche Welle, qui nous dit que le haut clergé catholique d'alors a joué un rôle dans la fuite des anciens chefs nazis vers l'Amérique latine. C'est établi par de nombreuses recherches historiques sur ce que l'on a surnommé la route des rats quand ces derniers quittaient le navire nazi. Cette route était jalonnée de faux papiers, de laissez-passer diplomatiques ou encore d'hospitalité discrète dans des monastères avec la complicité donc de responsables locaux de l'Église. Mais vu l'ampleur du phénomène, à quel point le Vatican lui-même et le pape Pie XII étaient-ils au courant? À quel point ont-ils soutenu et organisé sciemment ces réseaux de fuite d'anciens nazis, quasiment tous passés par Rome sur la route de l'Amérique latine? La Deutsche Welle cite plusieurs historiens allemands qui attendaient depuis des années l'ouverture des archives de Pie XII pour s'y plonger et y rechercher des réponses à cette question. Il y en a pour des années de travail.
Merci Camille Magnard.